toutes et à tous. Très heureux une nouvelle fois et une dernière fois d'être avec vous ce soir. J'ai pu faire un peu plus connaissance avec votre pasteur et sa famille. J'en suis très heureux. Voilà. En pastoral, il est très sérieux. Je ne dis pas qu'il n'est pas sérieux, mais ça lui arrive de blaguer. Voilà, c'est bien parce qu'on découvre les personnes sous un autre angle. Voilà. Et je me suis réjoui de faire un peu plus sa connaissance. Voilà, je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi. Peut-être que vous êtes dans une église évangélique ou dans un lieu comme celui-ci pour la première fois. On voudrait vraiment vous souhaiter la bienvenue et on désire que vous repartiez de ce lieu avec quelque chose du ciel qui vient de Dieu. Et quand je parle du ciel, je ne parle pas du ciel atmosphérique, je parle du ciel dont la Bible nous parle comme étant le lieu même de la présence de Dieu, quelque chose de Dieu, oui, qu'il veut et désire manifester dans votre vie. Alors je voudrais vous invitez à faire une lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset numéro 16. Évangile de Jean, chapitre 19, verset numéro 16. L'évangile, ça veut dire « bonne nouvelle ». Et cette bonne nouvelle est en Jésus-Christ. À deux reprises, dans le moment de chant, notamment dans le deuxième chant, il a été fait mention de quelque chose de particulier que j'aimerais aborder avec vous ce soir. Et puis votre pasteur également en a fait allusion, il a cité même ce que je voudrais aborder avec vous ce soir. Verset 16 du chapitre 19 de l'évangile de Jean. « Alors il le leur livra pour être crucifié. » Et c'est donc de Pilate dont il s'agit. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue : Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats près de la croix de Jésus. Se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Et il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Et j'aimerais m'arrêter avec vous sur cette parole du Seigneur, tout est accompli. C'est une des sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix et que, en tant que chrétiens, pour nous qui avons l'habitude de lire la Bible, connaissons bien, tout est accompli, tétélestai, dans le texte original, qui signifie aussi tout est payé, tout est soldé, tout est accompli. Et ce tout accompli que nous avons chanté dans le deuxième chant et dont votre pasteur a parlé avant de m'introduire et de me laisser la place, je crois ce tout accompli, cette parole du Seigneur sous-entend bien entendu que il y avait des choses à accomplir. Qu'en mourant sur la croix et au-delà de sa mort sur la croix, de tout son ministère, son service sur la terre, Jésus a accompli, tout accompli, ce qui devait être accompli. Et cela sous-entend bien entendu qu'il y avait des choses que le Seigneur devait accomplir. Il aurait pu descendre de cette croix. D'ailleurs, les spectateurs, ou ceux qui assistaient à sa mort ont bien tenté pour certains de le faire descendre de la croix en disant, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 40, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » C'est ce qu'on a l'habitude ou ce que certains ont qualifié de la dernière tentation du Christ. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens ajouteront au chapitre 27 toujours de l'évangile de Matthieu cette parole: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Voilà ce qu'ils ont déclaré. Et oui, il aurait pu descendre de la croix. Il aurait pu éviter son arrestation dans le jardin de Gethsémané, lorsque l'on est venu l'arrêter et que Pierre a sorti son épée pour défendre le Seigneur. Il dira lui-même, Jésus, Matthieu 26, verset 52, « Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi. C'est ainsi, dit Jésus, que les choses devaient s'accomplir. Et c'est pourquoi il dira, tout est accompli. Tout est accompli. Et j'aimerais voir avec vous ce soir les diverses choses qui ont été accomplies. Oui, il aurait pu descendre de la croix, mais il fallait qu'il accomplisse toutes choses. Je crois que c'est vraiment, non pas les clous qui l'ont retenu sur cette croix, mais le désir de faire la volonté du Père jusqu'au bout. Et il dira même, c'est pour cette heure-là que je suis venu sur la terre. Il aura pris soin même de dire, personne ne prend ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Et il l'a donnée pour accomplir des choses particulières. Et la première chose que j'aimerais voir avec vous ce soir, comme nous l'avons lu, il fallait que les Écritures s'accomplissent. Et quand nous parlons des Écritures, nous parlons bien entendu à ce moment-là de toutes les Écritures que les Juifs connaissaient à l'époque, c'est-à-dire les Écritures de l'Ancien Testament, toutes les prophéties qui avaient été faites au sujet de Jésus. Il fallait que ce que les prophètes, Moïse, avait écrit à son sujet s'accomplisse. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Ces Écritures qui parlent avec une précision extraordinaire et bien à l'avance, bien avant le mystère de l'incarnation de Dieu fait homme, bien avant que Jésus ne naisse, d'une manière miraculeuse, surnaturelle, de Marie, Bien avant que Jésus ne naisse sur cette terre, eh bien, oui, les prophètes, Moïse, avaient prophétisé à son égard. Les Écritures parlaient de lui. Et lorsque Jésus meurt sur cette croix, il fallait premièrement que les Écritures s'accomplissent avec une précision extraordinaire. Et je vous en citerai, eh bien, ce soir, quelques-unes. Par exemple, dans le psaume 22, le roi David prophétise de cette manière en parlant de Jésus et plus particulièrement eh bien, de sa mort sur la croix. Psaume 22, à partir du verset numéro 17. Psaume 22, verset numéro 17. David prophétise, c'est-à-dire que bien avant la venue et la mort de Jésus sur la croix, il parle avec une précision extraordinaire. Eh bien, de certaines caractéristiques qui ont accompagné sa mort sur la croix. Il dira, « Car des chiens m'environnent. » C'est David qui parle de cette manière. Plusieurs siècles avant la venue de Jésus, « Des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » La croix n'existait pas du temps de David. La crucifixion a été instaurée par les Romains. Elle était destinée non pas aux citoyens romains, mais aux plus vils des malfaiteurs. Et David ici parle avec précision, inspiré par l'Esprit de Dieu, eh bien de ce qui concerne Jésus-Christ. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Pourquoi David prononce cette parole? Parce qu'à la croix, aucun des os de Jésus n'a été brisé. Nous avons, au travers des récits qui nous sont donnés, eh bien, la preuve que lorsque quelqu'un était crucifié, mis à mort par crucifixion, il pouvait rester des jours et des jours sur cette croix. Alors, pour accélérer la mort, on brisait les jambes du crucifié afin qu'il ne soit plus porté et qu'il meure par suffocation. Mais Jésus pourra dire, oui, afin que s'accomplisse l'Écriture, qu'aucun de ses os n'a été brisé. Pourquoi ? Pour que les Écritures s'accomplissent. Pour que la prophétie de Zacharie, chapitre 12, verset 10, où il est dit que dans les derniers jours, eh bien, un esprit de grâce et de supplication eh bien, serait répandu sur la nation d'Israël et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Il fallait que les prophéties faites par Ésaïe, chapitre 53, s'accomplissent, voilà. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Oui, il fallait que les Écritures s'accomplissent. Mais pour toi et pour moi. Parce que oui, les Écritures se sont accomplies et elles ne concernent pas seulement Jésus, elles nous concernent également afin que dans nos vies, ce salut parfait, glorieux, expression de la grâce de Dieu et de son amour puisse pleinement trouver son accomplissement. Amen. Que nous puissions, oui, eh bien, faire l'expérience dans nos vies, à chacun et à chacune, de ce salut que Jésus-Christ nous a acquis sur cette croix où il donne sa vie. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Le psaume 69, par exemple, psaume 69, au verset numéro 22, il dira ceci, le roi David, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » Autre prophétie concernant Christ. Et je vous parlais il y a quelques instants de ces prophéties faites par Ésaïe qui parlent du serviteur souffrant. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le prophète Ésaïe, au chapitre 50, verset 6, dira « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Il fallait que les Écritures s'accomplissent dans un but, et nous pourrions encore citer bien des textes, par exemple le psaume 129, verset 3, où le psalmiste dira « Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. » Et cela nous parle de la flagellation que Jésus a dû endurer. Oui, il fallait que les Écritures s'accomplissent. Mais pourquoi ? Pour que vous et moi, nous reconnaissions
cette parole, que ces écrits sont inspirés de Dieu.
Sont inspirés de Dieu, je le répète, afin que nous comprenions que ces choses prophétisées, au sujet de Jésus, annoncées bien à l'avance, et qui se sont accomplies parfaitement et avec une précision extraordinaire, nous reconnaissions au travers de cet accomplissement que cette parole est vraiment la parole vivante de Dieu, qu'elle est la parole de Dieu qui est inspirée, amen, qui est utile, gloire à Dieu, pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, amen, que nous reconnaissions que cette parole, amen, n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu qui s'accomplit toujours, alléluia, et que nous puissions nous nourrir de cette parole, que nous puissions au travers d'elle recevoir les révélations dont nous avons réellement besoin, afin que nous discernions que deuxièmement, c'était le plan de Dieu qui s'accomplissait. Non seulement les Écritures, mais aussi le plan éternel de Dieu. C'est dans la prédication que Pierre apporte le jour de la Pentecôte où il dira « Cet homme livré à la mort » et c'est moi qui l'ajoute « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Ce terme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu signifie tout simplement cet homme livré selon ce que Dieu en avait décidé à l'avance et selon le plan qu'il avait prévu. Oui, il fallait que le plan rédempteur de Dieu s'accomplisse. Il fallait que ce que Dieu avait prévu de toute éternité, cette alliance éternelle entre le Père et le Fils, s'accomplisse. Il fallait premièrement que les Écritures s'accomplissent. Il fallait que le plan de Dieu pour nous, pour toi, pour moi, s'accomplisse. Ce plan rédempteur, amen. Ce plan rédempteur, c'est-à-dire ce plan qui nous libère, amen. Ce plan au travers duquel Jésus paie quelque chose, paie notre rançon pour que nous soyons libérés, gloire à Dieu. Oui, il fallait que le plan rédempteur de Dieu, un plan de bienveillance, un plan de salut, un plan de libération, un plan de délivrance, un plan de pardon, un plan de réconciliation, un plan de grâce, amen. Il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Gloire à Dieu. Oui, premièrement, il fallait que les Écritures s'accomplissent, afin que mon avis, tu reconnaisses que cette parole est vraiment la parole de Dieu. Deuxièmement, il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Il fallait que ce que Dieu avait décidé d'avance et avait résolu lui-même s'accomplisse. Gloire à Dieu. Troisièmement, il fallait, je crois, que la plus grande preuve d'amour soit accompli. Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et je crois que la croix est le plus grand accomplissement, la plus grande démonstration, la plus grande définition, la plus grande signature, je dirais, de l'amour parfait, de l'amour véritable. La Bible dit que Dieu prouve son amour, Romains 5, verset 8. Dieu fait la preuve de son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pour moi, pour toi. Et c'est la plus grande preuve, démonstration, c'est le plus bel accomplissement, je dirais, de l'amour parfait. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore, non pas, eh bien,
des amis, des gens qui avaient fait le bien.
Non. Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs,
des menteurs, des adultères, des meurtriers,
des coupables, des voleurs, des menteurs, des calomniateurs, des médisants, des rebelles, alors que nous étions encore, eh bien oui, dans nos offenses, Jésus est mort pour nous, pour toi, pour moi. Et c'est la plus grande preuve, je dirais, de l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 3, « De loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. » Et nous oublions la suite bien souvent, « C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Oui, parce que Dieu nous aime, il conserve envers les pécheurs que nous sommes, que nous étions pour certains d'entre nous, sa bonté. Il désire nous faire du bien, parce qu'il est bon. Amen. Gloire à Dieu. Oui, il fallait que la plus grande preuve d'amour qui n'ait jamais, je crois, existé, soit pleinement révélé aux hommes et manifesté à ton égard. Et c'est peut-être quelque chose que tu as besoin d'entendre ce soir, que Dieu, malgré tes fautes, malgré tes offenses, malgré ta rébellion, malgré ton insouciance, malgré ta colère, malgré tous les péchés que tu as pu connaître, eh bien, a manifesté à ton égard la plus belle, la plus grande, la plus merveilleuse preuve d'amour. Et il te dit ce soir, malgré tout ce que tu as fait, malgré ta rébellion, malgré le fait que tu m'aies négligé une bonne partie de ta vie, je te conserve toute ma bonté, je veux te faire du bien, je veux te bénir, je veux te sortir de là où tu te trouves, je veux te libérer, je veux te guérir, je veux te restaurer, je veux changer ton cœur, et en changeant ton cœur, je vais changer ta vie. Amen. Je dis souvent que Dieu ne change pas des vies, il change des cœurs. Et en changeant des cœurs, il change des vies. Parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Oui. Il veut changer ton cœur endurci, imperméable jusqu'à maintenant, à sa voix, malgré ta rébellion, malgré le fait que pendant des années peut-être tu et moquer le nom de Dieu, moquer ton épouse, malgré tout cela, il te conserve toute sa bonté. Oui, tout a été accompli par Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un texte dans Jean chapitre 12. Ma femme, qui est née dans une famille musulmane, a été touchée un jour par ce verset de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et tu peux mettre ton prénom, tu peux mettre ton nom, « Car Dieu a tant aimé Malika Houchen, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. » C'est le nom de ma femme, hein. Ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. car Dieu a tellement aimé Guillaume, car Dieu a tellement aimé mon père adultère, rebelle, qui se moquait de ma mère, qu'il a donné son fils unique, afin que Jean-Pierre croie en lui, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, il est entré dans le repos. J'ai oublié de vous le dire dimanche. Mon père est parti il y a 3 ans d'un cancer en 3 semaines, 1 mois. Et il est auprès du Seigneur. Oui. Comme quoi, des fois, ça vaut le coup de persévérer, de continuer à prier, comme l'a fait ma mère. Amen. Jean, chapitre 12. Jean chapitre 12. Et nous lisons verset 31, je vais bientôt terminer. Tout est accompli pour toi, pour moi. Et il est dit au verset 31 du chapitre 12, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été levé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Bien, j'aimerais te dire, mon ami, que tout a été accompli. Et dans ce tout accompli, Jésus a tout accompli pour que le diable soit jeté dehors de ta vie. Pour que le diable soit jeté dehors de ta vie. Pour que ce ne soit plus lui qui domine sur ta vie, pour que l'ennemi de ton âme soit jeté dehors. Jésus a tout accompli sur la croix pour que la défaite du diable, qui vient pour égorger, dérober, détruire les couples, détruire les familles, détruire les relations familiales, détruire l'Église, détruire des vies, les asservir, les placer sous un joug destructeur, le voleur qui veut détourner ce qui revient à Dieu de droit, celui qui veut les détourner de Dieu, de sa volonté, celui qui veut voler, oui, piller ta vie. Jésus a tout accompli pour que le diable soit jeté dehors de ta vie. Amen. Et que ce soit la présence de Dieu qui vienne dans ta vie maintenant et dorénavant. Amen. Et pour moi, cette croix, elle est vraiment symbolique dans ce qu'elle peut constituer. Je ne sais pas si, et je n'ai jamais fait les recherches en tout cas, mais je pense à ce patibulum que Jésus a porté, cette large pièce de bois que le condamné à mort devait porter sur son épaule, sur ses épaules, jusqu'au mont du crâne. Et je me dis que, eh bien, ce morceau de bois peut représenter tout simplement comme un moins qui, lorsqu'il vient s'ajouter à ce poteau qui était dressé, forme comme un plus. Et pour moi, c'est très révélateur de ce que la croix et l'accomplissement de Jésus peut signifier pour ta vie. Eh bien, il y a un moins. Jésus, oui, veut enlever le pouvoir que le diable exerce sur ta vie. Le moins, il veut ôter, enlever la culpabilité. Il veut enlever, eh bien, tes péchés. Il veut enlever la malédiction. Il veut enlever la mort, gloire à Dieu. Il veut enlever la maladie. Il veut enlever la dépression, j'en suis convaincu. Il veut enlever la malédiction. Il veut enlever, c'est ce moins, il a porté tout ce qui, eh bien, signifie de ce qu'il veut enlever de nos vies. C'est ce moins. Il veut enlever la culpabilité, l'incrédulité. Il veut enlever tes chaînes, tes peurs, tes angoisses. La Bible parle dans le livre aux Hébreux, chapitre 2, de tous ceux qui, toute leur vie, étaient rendus captifs à cause de la peur de la mort. Oui, il veut ôter l'influence, enlever, soustraire ta vie au pouvoir des ténèbres. La Bible dit « Rendez grâce au Père », Colossiens 3, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des sanctifiés dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il veut te délivrer de la puissance des ténèbres. Et il veut ajouter la vie. Il veut ajouter le pardon. Il veut ajouter la guérison de ton corps, de ton cœur, de ton âme. Il veut purifier, enlever la souillure et mettre la pureté. Il veut enlever la culpabilité et il veut mettre, oui, son pardon, sa grâce. Il veut enlever tout ce qui rend ta vie malheureuse et y ajouter tout ce qui contribuera à ta réussite, à ton bonheur. Il veut enlever le pouvoir, eh bien, du diable et y mettre le pouvoir bienveillant de Dieu sur ta vie. Gloire à son nom. Amen. Oui, il veut ôter certaines choses et y ajouter d'autres. J'aimerais te dire que tout a été accompli pour que, oui, à la fois la justice de Dieu se manifeste, mais qu'en même temps, et je terminerai donc par cela, la grâce te soit offerte. La croix, c'est le pont entre deux révélations importantes, eh bien, des Écritures, la loi et la grâce. Comment est-ce que Dieu peut faire grâce aux coupables sans renier sa justice? Tout simplement par la croix. Je répète, comment Dieu peut faire grâce aux coupables sans renier sa justice qui veut que le coupable meure selon la loi? Par la croix, où Jésus a été fait péché pour nous, où il s'est substitué à nous. La croix, c'est comme un transfert, où il prend notre culpabilité. Il meurt à cause de nos péchés, et il peut nous donner son innocence, sa justice. Amen. Tout a été accompli, mon ami. Toi qui es là ce soir, tout a été accompli pour que, oui, tu sois, comme nous l'avons lu, attiré à lui. Tout a été accompli pour que tu viennes à Christ. Et lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tout a été accompli pour que tu aies l'assurance de ton salut. Un salut que Dieu te donne par grâce, que tu ne mérites pas. Tout a été accompli pour que ta vie, comme je le disais dimanche, soit restaurée de tous les traumatismes que tu as pu connaître, de toutes les blessures les plus terribles que tu as pu endurer. Tout a été accompli. La croix est un lieu de guérison. La croix est un lieu de bénédiction. Oui, tout a été accompli pour que tu puisses venir à lui ce soir. Il y a dans cet accompli du Seigneur quelque chose au travers duquel Dieu voudrait nous attirer. Lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et comme ce brigand qui se trouvait crucifié à côté de Jésus, à qui Jésus dira, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi. Eh bien, tout a été accompli pour que le ciel s'ouvre sur ta vie. Tout a été accompli pour que la présence de Dieu te soit accessible. Tout a été accompli pour que le ciel soit ouvert sur ton existence. Tout a été accompli pour que tu vives avec l'assurance du pardon, du salut et de la vie éternelle. Alléluia. Alors nous allons nous recueillir. Tout a été accompli par le Seigneur pour qu'un plein salut et par pure grâce, non pas quelque chose que tu méritais, quelque chose que Dieu décide de te donner par amour, mais sur la base de ta foi. Sur la base de ta foi, oui, il y a quelque chose qui veut nous attirer sur cette croix et qui veut nous amener devant lui dans la repentance, la confession de nos fautes et saisir la grâce qui nous est donnée. Tout a été accompli par le Seigneur pour toi. Et alors que nous sommes recueillis, j'aimerais juste faire un appel tout simple. Alors que les visages sont baissés, courbés, peut-être que tu es là pour la première fois. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ce message. Peut-être que ce message t'interpelle, te parle. Alors que tout le monde a le visage baissé et que les chrétiens prient. Sans pression, je voudrais simplement te permettre peut-être de venir au Seigneur ce soir. De reconnaître que par ce message, Dieu désire t'attirer et te conduire en esprit sur cette croix ou à cette croix. Alors que nous sommes dans le recueillement et que nous prions, j'aimerais tout simplement inviter peut-être quelqu'un à lever sa main et à manifester son désir que ce tout accompli devienne une réalité pour lui aussi. Parce que ce tout accompli, c'est aussi pour toi qu'il a été manifesté. S'il y a quelqu'un ce soir qui se sent interpellé, à qui le Seigneur parle, à qui le Saint-Esprit dépose quelque chose dans le cœur, j'aimerais tout simplement t'inviter à lever ta main et je vais prier pour toi. Oui, le Seigneur vous voit. Est-ce qu'il y a une autre personne? Le Seigneur, oui, voit. Oui, le Seigneur voit vos mains. Oui, le Seigneur voit votre main. Alléluia. Je vous invite, vous qui avez levé votre main, peut-être à vous recueillir, à fermer vos yeux et à dire ceci après moi. Seigneur Jésus, je reconnais par l'Écriture que tout a été accompli pour moi. Pour Dieu, mais aussi pour moi. Et je veux simplement m'approcher de toi ce soir. M'approcher de ce tout accompli dans mon cœur. M'approcher de ce que, par amour pour moi, tu as accompli un jour. Je m'approche de toi contrit, humilié, reconnaissant mes fautes, mon péché, mais croyant aussi que tout a été accompli pour le pardon de mes fautes, pour la purification de mes souillures, pour que le ciel s'ouvre sur ma vie, pour que ce salut glorieux, précieux, qui m'est offert par grâce, devienne réalité dans ma vie. Je m'approche de toi, Seigneur, le cœur repentant, mais plaçant ma foi dans ce que tu as accompli par amour pour moi. Je reçois ton pardon, je crois dans l'œuvre de ta grâce envers moi. Je confesse que tu es le sauveur de ma vie, de mon âme. Je confesse que tu es mort pour moi. Je m'approche de toi et je reçois ta grâce et ton pardon et ton salut et ta justification. Amen. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Je voudrais, avant qu'on termine ces moments, qu'on puisse chanter un dernier chant. Et peut-être donner l'occasion à certains au milieu de nous qui ont besoin que l'on prie pour eux, parce que nous croyons, comme ça a été dit très justement, Jésus a donné sa vie pour nous pardonner de nos péchés. Mais l'Écriture affirme également qu'à la croix, il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Et je voudrais donner l'occasion à celles et ceux qui voudraient que l'on prie pour eux, parce qu'ils sont malades ce soir, de dire, mais Seigneur, je crois que tu es capable de me guérir ce soir. Alléluia. Alors pendant ce temps de chant, on va chanter ce chant qui nous dit, on l'a lu tout à l'heure, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alléluia. Alors vous qui êtes malades, eh bien notre frère Sébastien va prier pour vous. Au nom de Jésus, la Bible nous dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Alors pendant ce temps de chant, vous vous approchez et nous croyons que le Seigneur eh bien, va faire son œuvre. Alléluia. Et on chante ce cantique, car Dieu a tant aimé le monde. Gloire à Dieu. Approchez-vous sur le devant. Vous vous approchez et notre